Bonjour, bienvenue dans notre 21e émission, dans notre musée imaginaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un génie, nous allons parler de Michel-Ange. Il est certain que devant une telle œuvre aussi variée, nous pourrions peut-être faire une deuxième émission. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de cerner certaines œuvres majeures et surtout voir l'évolution dans sa créativité. Alors, Michel-Ange, 1475-1564, influence immense, il va révolutionner l'art européen, c'est un génie et il a écrit sa propre vie. Vasari, qu'il a rencontré, a célébré son maître, Michel-Ange, c'est un véritable peintre, mais comme tous les hommes de la Renaissance, peintre, mais aussi sculpteur, architecte, poète, c'est un passeur. Il mène à son apothéose les données classiques du XVe siècle, puis il casse les codes pour refonder un autre art. Sur le plan autobiographique, il dicte sa vie à Condivi, élève de Michel-Ange, qui va recueillir ses confidences. Et en 1568, Vasari écrira une vie de Michel-Ange. Michel-Ange, c'est l'apothéose de Florence. Né près de Florence, petite noblesse, sa mère décède dans sa petite enfance. Il est élevé par une nourrice qui est la femme d'un tailleur de pierre. Apprenti chez Guirland Diao pendant 3 ans à partir de ses 13 ans, il apprend la peinture, la fresque. C'est un grand dessinateur. Il est très doué pour le dessin. Il adore faire des copies, voire des faux, de dessins de différents maîtres comme Giotto. Et à 13 ans, il voit la chapelle de Masaccio, le cycle de vie de Saint-Pierre, chapelle Brancacci, à l'église Santa Maria del Carmine à Florence. Et là, bien sûr, c'est une révélation. À 16 ans, il est remarqué par ses merveilleux dessins. Il est repéré par Laurent de Médicis, dit le Magnifique. Il rentre à son service et partage aussi son intimité. Il mange à sa table. Il va découvrir la sculpture antique car il va rencontrer Bertoldo de Giovanni, qui est un sculpteur, qui est un élève vivant de Donatello, mais qui garde les sculptures des Médicis. C'est une forme de conservateur. Et par son intermédiaire, l'héritage de Donatello est transmis au jeune Michel-Ange. Il découvre les grands humanistes, initiés à la culture classique, à la poésie, par Picasso, de la Mirandole, ami de Laurent de Médicis. Il adule Dante, il apprend par cœur la Divine Comédie, il découvre la philosophie antique, exemple Platon, et il va découvrir aussi l'homosexualité. Parmi les œuvres de jeunesse, la Vierge à l'escalier vers 1491 ou la Madone à la Scala, sculpture en marbre, c'est une Vierge assise sur un escalier à marche. La Vierge, le visage de l'enfant Jésus est caché par les vêtements de sa mère qui protège son enfant. C'est un geste d'une grande douceur, d'une grande tendresse. Autre œuvre de jeunesse, la bataille des centaures. Les centaures, vous pouvez vous en référer en allant sur vos tablettes. Les centaures sont invités à un festin et se jettent sur les femmes. C'est un épisode mythologique. Œuvre donc de jeunesse à 17 ans. C'est un marbre, un bas-relief. C'est une œuvre prémonitoire, car nous voyons déjà l'évolution dans sa sculpture. Nous avons la torsion des corps, les coudes levés, cassés. Il joue avec la matière, les corps sont lustrés, le fond est strié. Il est célèbre pour ses dissections anatomiques à visée esthétique, et il écrit aussi des poésies, car il est amoureux. En 1493, il fait un Christ en croix, appelé aussi crucifix de Santo Spirito, à Florence, un bois peint. Il a une vie très longue, hein, 89 ans. Il est formé par les Médicis, mais c'est un républicain convaincu. Et pendant l'épisode de Savonarole qui va gérer Florence de 1494 à 1498, qui prêchera contre la luxure, etc., lui, Michel-Ange, sera à Rome. À Rome, il va faire le Bacchus ivre. En 1494, qui se situe à Florence, au musée du Bargello. C'est une commande du cardinal Riaro, refusée par celle-ci, rachetée par un banquier romain, puis par un Médicis pour Florence. C'est une sculpture en marbre. à la manière antique, c'est un nu, anatomie importante dans les détails, technique aussi, car le sujet s'appuie sur un arbre. C'est un jeune dieu ivre. On voit que cette sculpture est une reprise de l'Apollon du Belvédère, qui est une copie romaine en bas, en marbre, faite sous Antonin, à partir d'un original grec en bronze. Copie découverte vers 1492 et apportée au Vatican par le pape Jules II. Maîtrise encore plus exceptionnelle, ce sera bien sûr la Pietà, commandée par un cardinal français en 1499, Jean de Lagrelas, qui mourut avant qu'elle fût terminée. Elle sera placée dans la chapelle de Sainte-Pétronille, puis dans la basilique Saint-Pierre. C'est un chef-d'œuvre. Vierge de piété, c'est une iconographie qui est inventée au XIIIe siècle. On invente un épisode supplémentaire à la Passion du Christ, associant à la Passion du Christ la compassion de la mère. Après la descente de la croix, Marie aurait tenu son fils quelques instants. Nous avons là à faire aussi un très grand manteau de la Vierge. Monstrueux, si on déroulait le manteau, il ferait plus de 8 mètres de longueur. Cohérence donc de cette image iconographique fin du XVe siècle, seule œuvre signée de Michel-Ange, c'est l'apothéose de la perfection, composition optimale, perfection des traits, maîtrise du ciseau impensable, un an de travail, construction savante, pyramidale en marbre blanc de Carrare, en un seul bloc, beauté angélique de la Vierge, doux, juvénile, avec cette particulièrement que j'aime beaucoup, sa main gauche tendue, paume ouverte. Grande spiritualité, humanité, elle est signée Michael Angelus Bonarotus Florentinus Facieba. Le Florentin Michel-Ange l'a fait. Et puis le David. Le David, c'est 2 ans de travail, il va travailler seul, hauteur 4,34 m. Donatello est son grand maître, mais la différence du David de Donatello, il y a des références, certes, mais c'est différent, c'est avant le combat. Il porte une fronde sur l'épaule, c'est le nu héroïque, magnifié, dos et fesses splendides, mise sur la place de la seigneurie. Et puis, autre sculpture, le Moïse, 2,35 m de haut, pour le tombeau du pape Jules II. Là aussi, il va s'inspirer de Donatello, de son Saint Jean, inspiré de l'attitude aussi des tribuns romains, force et puissance du visage, comme corne sur le front de Moïse, donc qui aura toujours une mauvaise interprétation des textes jusqu'au XVIe siècle, alors que ces cornes sont simplement des lumières divines. Il ne sculptera que le Moïse du tombeau. Nous comprendrons pourquoi. Et puis, figure plus importante pour les sculptures aussi du tombeau de Jules II, esclaves mourants et esclaves rebelles qui sont au Louvre, mais le pape va mourir entre-temps, donc ce tombeau ne sera jamais terminé. Ce tombeau était fait pour la basilique Saint-Pierre. Les statues sont commencées par Michel-Ange, mais non achevées, non terminées. Pour ce tombeau, il existait donc ces deux captifs. Ces deux sculptures étaient donc destinées au tombeau de Jules II, pour la basilique Saint-Pierre de Rome, mais Jules II sera enterré à San Pietro des In Vincoli, basilique Saint-Pierre au lien où se trouve le Moïse. La statue de Moïse sera intégrée au tombeau de Jules II. On voit que ces statues ont des poses extravagantes, des allégories de la peinture, déformations, exagérations voulues par Michel-Ange, influence du Lacaon. Il déforme intentionnellement les corps, il se tourne vers une nouvelle manière, avec déformation voulue, recherchée, maîtrisée, plaisir du lever le coude. On voit une sophistication des compositions, la sculpture se prédispose dans la matière, il serait là pour dégager la matière. Enfin, tombeau de Julien de Médicis, Michel-Ange, on voit, fait glisser les deux personnages, les deux allégories de leur niche vers le sarcophage. Là aussi, on retrouve la déformation des corps, l'allongement des corps, et se trouve ce tombeau à la basilique San Lorenzo à Florence. Tombeau de Laurent de Médicis, volonté d'allongement du cou, discours sur la mort, et nous voyons une intellectualisation de l'art. Un personnage féminin symbolise la nuit, avec présence à ses pieds une chouette, et nous voyons déjà que la cuisse de ce personnage est très masculine, très musclée, déformée. L'autre, c'est le jour, la figure n'est pas sculptée, le masque de la nuit peut se mettre sur le visage. On voit que Michel-Ange, à travers ses œuvres, inscrit ses tourments personnels dans son art, car bien sûr, il est homosexualité et ce n'est pas facile à vivre. Il s'inscrit dans ses propres souffrances, dans la transformation du corps humain. Michel-Ange aura aussi des œuvres de peinture, j'en citerai une, le tombeau d'Oni au musée des Offices. Dans l'architecture aussi, il va créer le palais Farnèse et d'autres monuments à Rome, je cite le palais Farnèse, construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, reprise des plans à croix grecque, reprise de la coupole à la suite de Bramante et de Raphaël. En effet, en 1506, le pape Jules II avait ordonné la construction d'une nouvelle basilique. Enfin, la chapelle Sixtine, qui mériterait une émission entière, mais je vais être bref, nous y reviendrons. Jules II lui commande des fresques pour le plafond de la Sixtine, avec des épisodes donc de l'Ancien Testament, la création, le Jardin d'Éden, le déluge, pour le plafond. Et sur l'espace restant, sur ce qu'on appelle les pendules, on voit des figures bibliques, des prophètes, des sibylles. Et c'est remarquable. Peut-être même Michel-Ange s'est peint lui-même. 20 ans plus tard, en 1536, le pape Paul III lui commande une fresque représentant le jugement dernier sur le mur derrière l'autel. Nous avons parlé tout à l'heure de la Pietà, mais il a aussi créé deux autres Pietà, la Pietà Rondanini et la Pietà Bandini. La Pietà Rondanini, statue de marbre blanc, inachevée, c'est une des dernières sculptures de Michel-Ange, elle est située à Milan, au musée de la Pietà. Michel-Ange va mourir en 1564 à 89 ans. Mais avant, il a créé une autre Pietà, qui est la Pietà Bandini, avec quatre figures. Michel-Ange l'a destinée pour son tombeau. C'est une construction unitaire. La Vierge n'est pas terminée, c'est un marbre blanc de Carrare. Il est situé au Museo dell'Opera del Duomo à Florence. À l'arrière, nous voyons Nicomède qui soutient le Christ, et Nicomède est peut-être le portrait de Michel-Ange. C'est une œuvre, je vous le rappelle, inachevée, mais c'est volontairement recherché par Michel-Ange. Je vois que nous voyons qu'il a repensé l'anatomie, il resculpte le corps du Christ, allongement de l'anatomie des membres, recherche de la verticalité, fusion des deux corps entre la mère et le fils, dépassement total des codes de beauté de la Renaissance. La Renaissance réinvente une esthétique occidentale, mais aussi va renverser tout ça par le maniérisme, qui est une période historique, 1520 et à la fin du XVIe siècle. Le maniérisme, la manière, la belle la manière, on déforme le réel pour optimiser l'idéalisation du corps, autre expression de l'art, on détruit pour aller vers une autre chose, et ça sera le sujet d'une autre émission. Je vous remercie.